Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Galère 88.4 et c'est parti pour les infos de 12h30. Encore une fois, nous nous enregistrons avec un studio mobile dans un jardin, mais vous nous écoutez bien le vendredi 12 juin. Bon, l'état d'urgence, c'est pas fini et l'état d'urgence sanitaire non plus pour l'instant. Nous en sommes donc à 1670 jours d'état d'urgence, ce qui fait 4 ans, 6 mois et 26 jours, et à 69 jours d'état d'urgence sanitaire, 2 mois et 18 jours. Et voilà, et aujourd'hui on part comme d'habitude pour des infos choisies. Bonne écoute.
Et donc on va faire une revue de presse et autres médias parce que la grève chez Presstalis continue. Les quotidiens nationaux ne sont pas distribués depuis un mois à Marseille. Revenons à nos articles. On se dirige vers le non-renouvellement de l'état d'urgence sanitaire en France métropolitaine après le 10 juillet. Mais le gouvernement veut garder quelques outils sous le coude. Dans un premier temps, encore 4 mois, soit jusqu'au 10 novembre. Ces outils, par exemple, d'après le 30% de l'article du Monde que j'ai pu lire sur Internet, coronavirus, prochaine levée de l'état d'urgence sanitaire, sauf pour certaines mesures. Ces mesures vont être prises dans un projet de loi encore en préparation. La première, réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules. La seconde, l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage. Peut-être le port du masque dans les transports publics va rester obligatoire. Rappelons aussi que la RTM a supprimé les bus de nuit et que les trams ne circulent plus après 22 heures, toujours actuellement. Ensuite, la possibilité d'ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public et lieux de réunion avec une jauge maximale. Et le clou, on le trouve dans les 70% non accessibles sans abonnement. Alors c'est sur d'autres sites internet d'infos qu'on peut en lire plus. Le Premier ministre pourra limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature sans que le recours à cette mesure ne soit conditionné à une résurgence de l'épidémie. Ce qui rappelle un article de CQFD d'avril 2020 où l'historienne Fleur Beauvio, revient sur l'épidémie de peste à Marseille de 1720 à 1722 où des mesures sont adoptées dont certaines ne seront levées qu'à la fin du siècle, soit 80 ans plus tard, soit 29 220 jours, décompte définitif. Cet article intitulé « Pendant l'épidémie, les barrières sociales se sont maintenues » fait des parallèles avec le dernier confinement et ça n'est pas que rassurant.
C'est dans la revue Society que j'ai remis mon nez. Du côté des masques et de la thune, à Shenzhen, dans le sud de la Chine, Sawyer Zhuang, qui avait une agence de voyage, fait faillite. L'entreprise de son beau-père aussi. Coronavirus, plus de circuits de composantes électroniques. Un moyen de se refaire, fabriquer des masques. Début de la production début février après un investissement de 50 000 euros. la clientèle du monde entier se bouscule au clavier d'ordinateur pour passer des commandes. En tout, la Chine a augmenté de 450% son taux de production de masques jetables. 116 millions de masques sont fabriqués par jour. Le nombre d'usines est passé de 5 000 avant l'épidémie à 50 000 en Chine. Zhuang gagne deux fois plus avec ses masques jetables qu'avec son ancienne agence de voyage, c'est-à-dire 16 000 euros de salaire dégagé par mois. Il dit arrêter dans 3 mois, quand la frénésie de la demande chutera. Moment où il souhaite reprendre ses activités en agence de voyage, car, dit-il, tout le monde voudra partir en vacances. L'article ne donne pas les conditions de travail d'une telle amplification de fabrication. L'article ne décrit pas non plus les enjeux autour des masques jetables en France, leur production, le fait que des meufs aient travaillé gratuitement pour en fabriquer et en distribuer des lavables, ou tout simplement que le prix du masque jetable est multiplié par 10 depuis le début de l'épidémie. On passe de 10 centimes à 1 euro. Et donc, que tout le monde n'a pas les moyens de s'en fournir, et surtout que l'État ne fait pas en sorte que chaque personne puisse s'en procurer gratuitement. Et puis, plus près de chez nous, aux alentours de la page 17, quartier libre, amalgame entre la communauté gitane et coronavirus. Saint-Jacques, quartier de Perpignan où se trouve la plus grande communauté gitane de France sédentarisée depuis les années 60. Cette enquête relate l'immersion dans ce quartier pendant quelques jours, cohabitation entre gitans et maghrébins. 90% des 12 000 habitants habitantes ont été touchés par le virus. Bien avant celui-ci, et comme dans d'autres quartiers populaires, il n'y a ni jeux pour enfants, ni espaces verts. On constate un fort taux de chômage et une certaine précarité sanitaire en termes de santé. À partir du 15 du mois, certains et certaines habitantes n'ont plus rien à manger. Les règles de confinement freinent la débrouille et la proximité habituelle. Les rituels de deuil ne pouvaient par exemple pas être appliqués au moment des décès. Des morts enterrés sans un dernier au revoir, je cite, tels des sans-famille. Malgré les discriminations subies dans ce quartier, la population s'est débattue au mieux pour ne pas mourir des conséquences du virus. L'article décrit comment cette population et surtout comment la pauvreté est montrée du doigt. Ce serait elle qui serait à l'origine de la propagation du virus. Vraiment ? Seuls les pauvres propageraient ce virus ? Un papier double page. Le sens de la fête ou comment au bout de quelques jours des personnes jouent avec les règles du confinement ailleurs en France. Boîte de nuit, soirée, traversée de la France en Uber, va-et-vient chez une amie détentrice de piscine, chassé-croisé entre drogue et alcool, qu'on se rassure. Avec le possible des espaces et des conditions matérielles, c'était seulement des personnes qui bidouillaient pour prendre un peu de souffle pendant un confinement parfois oppressant, on le comprendra. Un confinement où on n'a pas eu le temps de se préparer, d'anticiper et d'être sûr de trouver l'espace et l'organisation où chacun, chacune se sentirait au mieux. Ouf ! On ne discrimine pas tout le monde de la même manière. Ouf ! Certaines ont le droit à un peu plus de légèreté. Et puis, au tout début de la revue Society, page 12, le sujet des EHPAD. EHPAD, on rappelle que ça veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'établissement Villanova à Corba, dans la banlieue lyonnaise, fermait ses portes à l'extérieur. C'est-à-dire que plus personne, en dehors des salariés et des résidents-résidentes, ne rentrait au sein de l'établissement. C'était le 14 mars 2020 à l'époque, il n'y avait zéro cas. Pendant un mois, 29 salariés restaient jour et nuit sur place pour éviter la contamination, puis 14 salariés après un mois. Certains et certaines sont partis. Ils et elles décrivent dans l'article les habitudes à mettre en place ou à ne pas lâcher pour les repères des résidents-résidentes. Ils et elles décrivent le rythme, la nécessité d'avoir des temps pour soi et des moments informels. Ce qui attire l'attention dans cet article, c'est la capacité de réajustement. Pour 14 résidents-résidentes, les visites ont repris progressivement au bout de 4 semaines. Qu'est-ce que gérer la souffrance ? Comment ne pas isoler des personnes déjà seules habituellement ? Comment réajuster constamment pour ne pas péter les plombs ? La routine est-elle nécessaire à une normalité qui permet le repos ? Ce que ne dit pas l'article et qui reste et sera toujours d'actualité, c'est que ces EHPAD, ces établissements, étaient encore en lutte l'année dernière, et même jusqu'à il y a quelques mois. Pendant le confinement et pendant cette épidémie qui court toujours, ces luttes prennent d'autres formes, mais ce que ne dit pas l'article, c'est que les salariés sont globalement toujours aussi mal payés et que celles et ceux qui sont en bas de l'échelle ont souvent le dos ruiné.
Travail gratuit ou main-d'œuvre pas chère dans l'agriculture. Pendant le confinement mi-mars, rappelez-vous, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, avait lancé un appel patriotique dans beaucoup de médias pour rejoindre la grande armée de l'agriculture française. J'avais lu à l'époque sur le site infomigrant.net que le préfet de Seine-et-Marne en région parisienne avait lancé un appel le 30 mars aux réfugiés en règle pour aller trimer pour soutenir les agriculteurs du département confrontés à l'épidémie de coronavirus. Bien sûr, fermeture des frontières coïncide avec manque de main-d'œuvre étrangère. Je cite « Certains maraîchers du département ne disposent pas de la main-d'œuvre nécessaire, saisonnière étrangère nécessaire et peinent à recruter, alors que se profile dans quelques jours le ramassage des fruits et légumes en terre, notamment des fraises et des asperges, et que les légumes qui sont récoltés en juin doivent être plantés dès maintenant. » Donc, dans le journal The Conversation, un article paru le 10 juin confirme que 80% de la main-d'œuvre est étrangère dans le secteur agricole. Et pour la période 2018-2019, cela représente 270 000 saisonniers qui se concentrent dans les Bouches-du-Rhône, le Lot-et-Garonne, le Vaucluse et l'Hérault et qui sont originaires du Maroc, de la Tunisie et de certains pays européens comme la Roumanie ou la Pologne. La fermeture des frontières a engendré une fragilisation du secteur, mise en péril non seulement leur propre santé financière, mais aussi l'approvisionnement des populations en produits agricoles. Donc là, l'article s'intéresse aux solutions mises en place par les gouvernements pendant la crise du Covid-19 pour ces travailleurs saisonniers. Et une des stratégies des gouvernements a été d'abord de déroger à la fermeture des frontières au sein de l'Union européenne. Et la Commission européenne a ainsi recommandé de considérer la main-d'œuvre saisonnière comme des travailleurs exerçant des professions critiques, ce qui autorise leur libre circulation au sein de l'Union européenne. Et c'est ainsi qu'en Grande-Bretagne et en Allemagne, le contrôle des frontières a été assoupli pour permettre à des travailleurs roumains de venir travailler. Alors, deuxièmement, remplacer les saisonniers par des locaux. En France, c'était l'objectif de la plateforme « Des bras pour ton assiette » avec un slogan très simple « Pas besoin d'un bac plus 5, vos deux bras suffisent ». L'Allemagne avait « Das Land Hilfe », le pays aide, et le Royaume-Uni « Pick for Britain and Feed the Nation ». Et ces initiatives ont parfois ciblé des publics spécifiques. En Italie, par exemple, le ministre de l'Agriculture a proposé de recruter des chômeurs. Mais la pénibilité des tâches proposées est un problème et avec la fin du confinement, cette source de main-d'œuvre va se tarir. Donc, troisième option consiste à intervenir au niveau des politiques migratoires afin de rendre disponible une main-d'œuvre qui ne l'était pas auparavant. Et en Italie, des milliers de sans-papiers ont été régularisés la semaine dernière pour faciliter leur accès au marché du travail, soit la régularisation à noter la plus importante depuis 10 ans. Mais avant de se réjouir, regardons plus en détail et un article dans le journal de Lutte ouvrière nous apprend que ce décret de relance de l'économie régularise 200 000 travailleurs sans papier, mais sur les 600 000 présents dans le pays. Et seuls sont visés les bras jugés utiles, dont le manque s'est fait sentir pendant le confinement, soit en particulier dans le secteur agricole, mais aussi dans les EHPAD auprès des personnes âgées. Et surtout, cette mesure est partielle puisqu'elle est limitée dans le temps. Le permis de séjour étant accordé pour seulement 6 mois. Le temps de faire les récoltes, en somme. Et pour en revenir à The Conversation, en Allemagne, le séjour temporaire des travailleurs étrangers a été prolongé de plusieurs mois pour leur permettre de rester dans le pays et de continuer à travailler. Pour parler de lutte dans le secteur agricole, mais dans les branches de livraison de bouffe, des centaines de personnes sans papier travaillent pour Frichti et demandent leur régularisation. Il y a différents articles dans la presse mainstream tels que Libération ou Le Monde Et là, je me suis servie d'un article de aussi infobrigrand.net, publié le 9 juin. Frichti est le premier supermarché qui n'a rien à cacher, selon son slogan. Et pourtant, la majorité des coursiers de l'entreprise sont sans papier. Environ 85% des livreurs ne sont pas en règle. Et du coup, là, c'est le témoignage que je vais lire de Arnaud, qui est un homme camerounais de 31 ans, qui livre pour la plateforme depuis plus d'un an. Et donc, il va y avoir régulièrement des extraits de lui qui parle. Donc, après des années de bons et loyaux services, des centaines de livreurs sans papier ont été renvoyés manu militari par la société de livraison. Les coursiers demandent à reprendre le travail ainsi que leur régularisation. Et depuis début juin, la société a envoyé un mail leur demandant un passeport d'un État de l'espace économique européen, une carte nationale d'identité ou un titre de séjour pour pouvoir continuer de travailler. Et l'envoi de ce mail coïncide avec la durée, la date du déconfinement en France. Pourquoi ce mail tombe maintenant alors qu'on travaille pour eux depuis des années ? Comme par hasard, on reçoit cette note après le confinement. Ils étaient bien contents qu'on travaille à ce moment-là. Et seuls les sans-papiers étaient présents à cette période, donc assure Arnaud. Et en fait, c'est une enquête de Libération publiée le 1er juin, indiquant que des coursiers en situation irrégulière travaillent pour la plateforme qui a mis le feu aux poudres et donc qui a eu pour la conséquence la demande des papiers en règle. Au début, c'était surtout des jeunes parisiens, des étudiants fans de vélo qui livraient les repas. Mais avec la baisse des rémunérations, qui va continuer ces courses ? Les gens très précaires dans le besoin, donc beaucoup de sans-papiers. Un livreur est payé 5 euros de l'heure et 50 centimes par course. Plus on livre de commandes, plus on gagne de l'argent. Frichti nous met en compétition avec les autres livreurs. Si on ne livre pas un jour de pluie, notre note baisse et on peut être banni plusieurs jours de l'application qui nous permet de livrer. Voilà, donc la mobilisation augmente, les syndicats commencent à rejoindre les rassemblements mis en place par les anciens salariés sans papier les manifestants et leurs avocats demandent une aide d'urgence pour les coursiers étant désormais dans l'incapacité de travailler. Pour conclure, on s'échappe du travail, mais on reste dans la gestion par l'Union européenne des personnes migrantes. Sur le site de RFI le 7 juin, on apprend qu'en Grèce, les autorités ont à nouveau prolongé le confinement des principaux camps de demandeurs d'asile pour 15 jours supplémentaires, soit jusqu'au 21 juin. Les camps où s'entassent au total près de 35 000 personnes et qui se situent sur 5 îles de la mer Égée. C'est la troisième fois que ce confinement est prolongé depuis le mois de mai, officiellement en raison de la lutte contre la pandémie de coronavirus, un virus qui a pourtant relativement épargné le pays, où moins de 200 victimes ont été recensées depuis le début de la crise sanitaire.
Mettre une distance entre nous. On va te barrer la route. On va te barrer la route. On va te barrer la route. Tu ne pourras même pas t'installer ici. On va te foutre dehors.
Radio Galère 88.4. On est le vendredi 12 juin. Et vous écoutez les infos choisies. Et viennent juste de passer Corona de Tikenja Fakoli. Plus souvent, en tout cas entre nous, on parle du DSM, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, parce que cet ouvrage a très tardivement retiré l'homosexualité de sa classification, donc on a cessé de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale ou un trouble mental. Et encore plus récemment, c'est-à-dire seulement en 2014 pour sa cinquième version, a retiré la transsexualité de la classification de maladie mentale. J'ai relu dans un ouvrage une revue Enquête de santé qui est assez vieille, un article parlant de ce manuel diagnostique, et j'ai eu envie de vous refaire un petit point là-dessus. Je pense que c'est pas un mauvais moment pour parler de, en tout cas, de souffrance et de souffrance mentale et de l'isolement dans lequel se sont retrouvées des personnes en souffrance mentale pendant cette période de confinement. Cet article donc datait de 2013, moment auquel s'apprête à être pondu par l'assaut des psychiatres américains cet ouvrage de référence, donc le DSM, ouvrage de référence dont c'était la cinquième version qui allait sortir. Cette espèce de bible de psychiatrie pose un cadre extrêmement réducteur et ultra organique à l'appréhension des maladies mentales. Il génère également une anormalisation de la réalité psychique des individus. Ce que je veux dire par là, c'est que pour classifier et trier, il réduit à l'appréhension de juste certains symptômes majeurs, telle ou telle psychose, ou tel trouble psy. Il les détermine aussi pour des causes biologiques et ou génétiques, ces mêmes troubles. Et il a tendu de plus en plus avec le temps à biologiser, ce que je voulais dire, dans rendre ultra organique la lecture des troubles psy. En plus, il tend avec les années à étendre le champ du psychiquement malade à un nombre toujours plus grand de manifestations psychiques, émotionnelles, réactionnelles, intellectuelles chez des individus. Ainsi, de plus en plus de personnes à l'échelle de la planète ont, selon cette classification, une maladie mentale. Ces chiffres ont été multipliés par 3 aux États-Unis entre 1987 et 2007. Chez les adultes, comme chez les enfants, qui sont aussi très lourdement pathologisés psychiquement, notamment à travers un surdiagnostic de l'hyperactivité. Soit dit en passant, on ne se demande jamais si c'est l'école qui est chiante et qui pose des cadres ultra relous pour les mômes. Par contre, on préfère les classifier, les diagnostiquer parce qu'ils s'agitent. Je ne prends pas la peine de mentionner qu'évidemment, l'organe central de recherche pour la rédaction du DSM est dirigé par un professeur qui a été consultant pour rien de moins que 9 grandes entreprises en pharmacie américaine. Toujours la pharmacologie qui fait son petit marché sur des enjeux de santé. Progressivement, ce registre, dont le premier est paru en 1952, a exclu toute forme de considération environnementale et historique dans l'approche qu'il avait des individus qui présentaient des dits troubles psy. Les psychanalystes, malgré le mal qu'on peut penser de certains d'entre eux qui s'appuient sur des théories également pathologisantes, hyper hétéronormatives, misogynes, ces mêmes psychanalystes défendaient des pratiques de soins non médicamenteuses pour un grand nombre de patients, une approche de l'existence de l'individu en dehors de ce qui se passait chimiquement dans son cerveau. Ils ont été progressivement mis à l'écart dans la rédaction des différentes versions des DSM. En 1980, qui devait être le révolutionnaire dans la sortie du DSM-3, il y a un truc qui a été avancé, qui a été nommé la neutralité théorique, et qui va donc gagner, et va gagner avec elle l'idée que la maladie mentale est liée à un déséquilibre chimique régulable dans le cerveau. Cette manière unique de considérer la pathologie psychique aide évidemment à centrer l'approche sur de la médication. On a banalisé avec le temps des diagnostics réducteurs hyper faciles, appuyés sur ce même DSM, ce qui donne aujourd'hui la possibilité aux médecins généralistes de prescrire des antidépresseurs, très très critiqués pour leurs effets secondaires et négligeant d'autres formes d'aide psychique non chimique. Dans ce cadre, on se rappelle que les médecins qui pondent ça revendiquent leur statut sacro-saint de scientifique, donc censé prouver par l'objectivité qu'un lien égale, enfin une cause, est lié à une conséquence de manière irréfutable. C'est ce sur quoi s'appuient, soi-disant, les rédacteurs du DSM. Or, la recherche pour trouver des marqueurs biologiques, vous voyez comme génétiques des maladies mentales, échoue sans cesse. On n'arrête pas, par exemple, de nous rabâcher avec l'idée qu'il y a un gène qui est responsable de l'autisme. Et ça reste à prouver, en fait. Ce gène n'est pas trouvé, quoi. Mais c'est cette branche-là qui de l'approche médicale qui rédige cet ouvrage. Très souvent, le consensus qui se trouve plutôt dans la rédaction, c'est de s'imaginer que face à une pathologie psychologique, il y a une solution chimique, et donc une solution chimique et médicamenteuse. Ce consensus amène de plus en plus pousse de plus en plus à prioriser des soins chimiques qui régulent des comportements en vue d'une meilleure intégration sociale, à voir si elle est désirable. Et selon des critères d'intégration qui deviennent ultra-normatifs, comme avoir un comportement stable, être un enfant docile, etc. J'ai lu également, et je voulais vous parler rapidement, d'un article qui était dans le CQFD de ce mois-ci, juin 2020, un article qui s'intitule « Dans l'enfer de la psychiatrie covidienne ». Cet article relatait les conditions d'enfermement psychiatrique dans une clinique psy à travers le témoignage d'un patient qui a choisi de se confiner plutôt dans la clinique. Il s'est posé la question s'il voulait sortir ou pas, mais il a eu peur, comme beaucoup en fait, de se retrouver isolé et seul chez lui et d'avoir plus accès à des soins. Ce qu'a priori il a eu raison de craindre, parce qu'il y a un très grand nombre de possibilités de soins et d'établissements d'accueil, même de jour, qui ont fermé. Et le travail social et médico-social a souffert, quoi, pendant le confinement. Et il relate donc de l'intérieur de la clinique une baisse énorme de la qualité de vie, notamment parce que dans cette clinique, il n'y a plus de lieu collectif pour mener des activités. De toute façon, il n'y a plus aucune activité du jour au lendemain de loisirs qui ont été proposées. Les activités de soins ont baissé énormément aussi. Il y a eu une pénurie de matériel pendant un mois, notamment de matériel sanitaire qui aurait permis de faire de la prévention et de commencer doucement à intégrer des gestes pour freiner l'épidémie ou prévenir que l'épidémie de Covid n'atteigne pas à l'intérieur de l'établissement. Au tout début du confinement, il y a des patients qui ont été poussés dehors pour pouvoir limiter le nombre de personnes à l'intérieur de la clinique. Mais aussi, à l'inverse, on a essayé de faire de la place pour que les gens soient moins entassés dans des chambres. Mais comme il y a des espaces de cette même clinique qui ont été réquisitionnés pour des accueils Covid, les gens se sont retrouvés entassés dans d'autres chambres. Il y est aussi relaté un enfermement drastique et autoritaire, parfois. Toute sortie en dehors de la clinique a été empêchée avec une raison donnée, comme c'était trop compliqué à organiser. La personne qui rédige l'article, plutôt, c'est plus très clair à bout d'un moment qui parle, mais notait la difficulté à maintenir des soins intéressants pour les patients, que la téléconsultation a aussi pris le dessus dans ces établissements, et ça a énormément, enfin cette dématérialisation en fait, elle a déshumanisé le contact, la présence, l'importance de pouvoir être relativement proche avec un tiers de ce moment d'isolement et qui a aggravé la souffrance psychique, quoi. Et l'article finit aussi par noter qu'il y a eu un manque drastique de consentement et de collectivisation des décisions qui ont été prises sur quelles pratiques de protection va être mis en place à l'intérieur de la clinique face au Covid, et que l'organisation par les équipes a été faite de manière hyper autoritaire et assez pyramidale. Voilà, on déplore encore une fois le manque de coopérativité et de collectif qui a sévi pendant cette période et qui a aggravé les souffrances, en fait, la souffrance en général, quoi.
Mayotte est une île qui se trouve dans l'océan Indien, dans l'archipel de Comores, à l'est du canal du Mozambique. Elle a une superficie de 316 km², une population qui est de 250 000 habitants. En 2011, elle est devenue département français, le 101e département français. Plus de 80% de la population est sous le seuil de pauvreté. La majorité de la population de Mayotte a moins de 25 ans. Comme dirait M. Tiken Djafakoli, le pays va mal. Car depuis le 14 mars 2020, le premier cas de coronavirus a été signalé à Mayotte et 3 jours après, l'île se confine. Le cas de corona ne cesse d'augmenter jusqu'à aujourd'hui. 2000 cas confirmés. L'épidémie de corona n'est pas la seule chose qui alarme la population, car depuis plus de 2 ans, de nombreux séismes font que la population de Mayotte soit inquiète. Et il y a eu aussi, avec l'apparition du corona, une autre épidémie, celle de la dengue, qui a les mêmes symptômes que celui du coronavirus. La situation de Mayotte est devenue de plus en plus dure, car on se rend compte que les pénuries en termes d'infrastructures médicales, d'équipements ou même de médecins sont très peu. À Mayotte, sur l'île, il n'y a que 16 lits pour la réanimation, pour 250 000 habitants. Aujourd'hui, que ce soit dans tous les villages confondus, il y a des cas de corona, mais les personnels hospitaliers se retrouvent eux-mêmes contaminés et cela inquiète la population, car la population a honte aujourd'hui de signaler comme quoi ils voient l'apparition du coronavirus, car ils n'osent pas dire comme quoi ils ont le corona, peur du rejet de la population. Depuis peu, avec l'autorisation de l'île de la Réunion, les personnes qui sont hospitalisées sont envoyées par avion dans l'hôpital de la Réunion pour être traitées au plus vite. Le confinement à Mayotte n'a jamais été vraiment respecté, car les conditions, la pauvreté ne sont pas favorables à un confinement correct, car la population veut travailler et ne peuvent pas laisser leur travail pour se confiner. Certains se confinent, mais leurs enfants sortent. Du coup, ils ne peuvent pas se confiner correctement. On se rend compte que le confinement est très dur et le fait de sortir aussi, car se protéger ou protéger l'autre, la population ne peut pas se payer des masques. Un paquet de masques qui contient 10 coûte 57 euros, alors qu'on est dans une île qui est très très pauvre. Le cas de corona augmente juste à cause du fait que les masques coûtent trop cher pour une population qui n'arrive même pas à se nourrir et qui doit acheter des masques qui sont jetables à 57 euros.
Et on continue du coup avec les infos sur Radio Galère, avec un texte sur lequel je suis tombée. Bon, pour la petite anecdote, en fait, c'est un texte qui date de 2016. Je ne le savais pas au moment où je l'ai lu. Je l'ai su dans la préparation de l'émission radio. Et voilà, je trouve ça assez criant qu'en 2016, une personne qui s'appelle Michaela Danger a écrit ce texte, voilà, qui s'appelle « Une image, mille mots et des baffes qui se perdent ». Je vais vous lire quelques extraits, je ne vais pas le lire en entier. Vous pouvez le trouver sur Case Rebelle, vous tapez « Une image, mille mots et des baffes qui se perdent », même sur Google, vous pourrez le trouver en entier. Quelqu'un qui souffre, qui est en train de mourir ou qui vient de mourir brutalement a plus que jamais droit à ce que son image soit protégée dans ces moments extrêmes. Même quand vous utilisez des vieilles images de crimes coloniaux, de lynchage, ça n'enlève rien au fait que les individus que vous montrez avaient des vies, des noms, des désirs, des familles, etc. Ils ne perdent pas avec le temps ce droit à ce qu'on respecte leur dignité. Quand vous utilisez ces images pour interpeller ou appuyer un point d'argumentation, vous réduisez ces existences. Vous utilisez leur corps et les tortures qui leur ont été faites plutôt que d'essayer de formuler, argumenter, expliquer. Vous les dépouillez de leur dignité. Qui veut des milliards de spectateurs pour sa mort? Qui veut les images de son propre supplice ou celui d'un proche soit uploadé en ligne pour un temps infini? Cela vous donne peut-être bonne conscience, mais pour ce qui est de la police, par exemple, il n'y a pas pour l'instant d'études statistiques qui prouveraient qu'une diffusion massive de vidéos de meurtres entraîne, par exemple, plus de condamnations.
Qu'il s'agisse de meurtres policiers, de vieux crimes coloniaux, de guerres, de violences post-électorales, ces images concernent systématiquement des corps non blancs, à qui l'on refuse la dignité et l'intimité jusqu'au bout. Je ne suis absolument pas la première personne à écrire cela, mais je le répète, parce qu'en participant à leur diffusion massive, vous nourrissez aussi, à votre façon, le monstre de la suprématie blanche et sa dévaluation permanente de nos corps. La preuve par l'image ? Il est terriblement problématique d'avoir besoin de voir pour croire, de montrer pour convaincre. Si vous ne pouvez pas croire ce que l'on vous dit, ce que l'on écrit, en quoi une image serait plus parlante? Avez-vous encore besoin de voir une vidéo pour croire que la police états-unienne vient d'exécuter encore une fois un noir ou une noire? Si l'on pense que voir la mort en direct est le seul moyen de réveiller les consciences, c'est très inquiétant. Il faut travailler sur les âmes, sur l'empathie et l'information, plutôt que de continuer à nourrir les gens et les capitalistes du web au sang et à la mort.
Les images choquantes doivent être vues par un nombre limité de personnes. Elles doivent être accessibles à la justice, à l'histoire et retranscrites pour l'information et la mobilisation. Il est inadmissible qu'elles deviennent du divertissement et il est inadmissible que l'on tombe dessus. Pourquoi auriez-vous besoin d'assister au crime pour croire au crime? Pourquoi avez-vous besoin d'être spectateur, spectatrice d'extrême souffrance alors que les témoins directs sont parfois choqués à vie? Pourquoi vous permettez-vous d'imposer ce spectacle à d'autres sans prévenir? Pour quelle bonne cause? En êtes-vous plus militante maintenant? Considérez-vous vraiment que partager des images choquantes va nous mener à la révolution? Si vous avez besoin d'images pour comprendre, faire comprendre ou accepter la réalité d'une violence, questionnez-vous sur votre empathie. Voilà, et je voulais quand même, avec ce texte, du coup, on ne va pas parler aujourd'hui du contexte. Il a été difficile de passer à côté. Mais je voulais quand même faire une dédicace particulière, en tout cas à ce qui s'est passé en France autour de l'affaire de Adama Traoré, et une dédicace toute particulière à Assa Traoré. Et à la manière dont, moi ce qui m'a marqué en tout cas, c'est la manière dont elle montre ses cheveux et la manière du coup dont elle m'a donné envie aussi de montrer mes cheveux. Et la deuxième dédicace, du coup, c'est toujours pour Assa Traoré, mais là aussi, je généralise un peu plus à son collectif qui s'est positionné, je crois que c'était avant-hier. Il y a SOS Racisme qui a essayé de s'incruster dans l'histoire. Et ils ont positionné qu'ils n'avaient pas envie de reproduire les mêmes erreurs qu'en 83. Et que ils ont refusé l'invitation du gouvernement et ils ont appelé à moins de paroles et à plus d'actes.
Eh ben, c'est bientôt fini, mais comme d'habitude, on va faire un petit point agenda. Donc ce soir à 19h, vendredi, rendez-vous à la Plaine. Alors on rappelle que la Plaine, c'est la place Jean Jaurès dans l'hypercentre-ville de Marseille. Il y a un rendez-vous à 19h pour un repas, Ensuite, à 20h, il y a la diffusion d'une conférence de Rachida Brahim qui a été enregistrée il y a quelques temps par des camarades. On rappelle que Rachida Brahim, c'est une sociologue qui a travaillé sur les violences policières et notamment sur la question des ratonnades dans les quartiers nord à Marseille dans les années 80, si je ne dis pas n'importe quoi. Ensuite, à 21h, il y a une projection en plein air du film « À nos corps défendants ». C'est un film sur la question des violences policières. Samedi, demain, à 19h, il y a un départ en manifestation. Le rendez-vous, il est donné au Vieux Port. C'est un appel intercollectif. Il faut venir masquer. Et d'ailleurs, par rapport à la manif contre les violences policières et le racisme, à celle du 6 juin, on a lu sur une pancarte « L'apartheid était légal, l'Holocauste était légal, l'esclavage était légal, la colonisation était légale, la légalité est une affaire de pouvoir et non de justice ».
Voilà, on voulait aussi vous annoncer un appel à rassemblement en soutien aux travailleurs et travailleuses agricoles détachés. Un appel à rassemblement en soutien aux travailleurs et travailleuses agricoles détachés en procès contre Laboral Terra et cette entreprise agricole française. Ça se passe le mardi 16 juin, mardi prochain donc à 9h et c'est au Conseil des Prud'hommes de Arles. Donc, il y a un petit communiqué. Le mardi 16 juin 2020, au Conseil des Prud'hommes d'Arles, se tiendra une nouvelle audience du procès de 5 travailleurs et travailleuses agricoles détachés contre l'entreprise espagnole de travail temporaire Laboral Terra et cette entreprise agricole utilisatrice en France. Face aux multiples renvois et au dépôt de bilan de l'ETT Laboral Terra, cette nouvelle audience devrait être l'ultime étape de cette procédure entamée en 2017. Cette plainte a été déposée pour des faits de non-respect du Code du travail et des conventions collectives sur des motifs de travail dissimulé, de marchandage, de non-paiement d'heures travaillées, de harcèlement et de discrimination de ces travailleurs et travailleuses étrangères. Une procédure pénale est également ouverte dans ce dossier. L'enquête est toujours en cours. Luttant ensemble contre les discriminations et l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère et pour une égalité des droits entre tous et toutes les travailleurs agricoles. Voilà, mardi à Arles, au Conseil des Prud'hommes, à 9h.
Et du coup, toujours mardi 16 juin, un peu plus tard, à 11h, les collectifs et syndicats de soignants, soignantes appellent à une journée de grève et de manifestation. Le 16 juin, les usagers et le personnel de la santé et de l'action sociale seront dans la rue. Les professionnels ne se contenteront plus de belles promesses et de demi-mesures. Du fric pour la santé, pas pour les financiers. Des thunes pour le social, pas pour le capital. Voilà, du coup, il sera temps de descendre des balcons.
Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
À la prochaine.
Ciao.